A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Cette petite île étonnera le monde. Ainsi parlait Jean-Jacques Rousseau de la Corse. Cette phrase, pas tombée dans l'oreille d'un sourd, circule dans les calanques d'une île qui porte le fichu noir et dans les pages d'un 400 pages intitulé « Une histoire de l'identité corse, des origines à nos jours », signé Michel Verger-Franceschi. Un nom qui sent déjà la mer et les oranges, un nom corsé, bien placé pour déchiffrer la partition tourmentée de cette identité méditerranéenne. Auteur notamment d'une histoire de Corse, trois fois titulaire du prix du livre Corse, professeur d'histoire moderne à l'université de Tours en France, je soupçonne Verger-Franceschi de cultiver une double passion, corse et française. Bonjour Michel Verger-Franceschi.
Bonjour.
Est-ce que je vous présente comme un historien corse ?
Ah oui, volontiers. Moi, ce sont mes racines. Je les revendique depuis toujours. Ce sont tous mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs de vacances, mes séjours dans l'île aujourd'hui, qui sont très nombreux, mensuels, et donc tout à fait historien corse, je revendique.
J'ai comme je me souviens.
Oui, vous êtes né en 1951 à Toulon, donc dans le sud de la France, mais avec des origines qui s'entendent. Qu'est-ce qu'on entendait là comme chant ?
Là, on entendait le chant religieux qui est le Diovi Salve Regina, qui est un chant religieux introduit en Corse à partir de 1735 et qui est devenu l'hymne national du temps de Pascal Paoli, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Et qui était chanté à la messe quand vous étiez petit ?
Qui était chanté à la messe tous les dimanches. J'entendais ça à Roliane, tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Toutes les messes finissent par le peuple corse, debout, en train de chanter cet hymne.
C'est comme si on entendait la Marseillaise en pleine messe ?
Et oui, tout à fait, c'est ça. C'est un hymne qui vouait la Corse à la Vierge, ce qui s'est fait d'ailleurs aussi en France. Louis XIII avait voué le royaume de France à la Vierge Marie en 1637, et il s'en est suivi la naissance de Louis XIV en 1638.
Alors, votre famille est issue d'un petit village qui s'appelle Rogliano, capitale du Cap Corse au nord de l'île. Ça ressemble à quoi ?
Ah, c'est superbe. C'est vrai que Rogliano est un petit village étagé avec un vieux château médiéval du XIIIe siècle qui domine le village. Des tours génoises, une tour qui est connue comme étant la tour de Barbara et qui est l'un des derniers seigneurs du Cap Corse. Et en bas, il y a ce que l'on appelle la marine en Corse, c'est-à-dire le port, et c'est le petit port de Massinage qui fait le pendant du port de Centour sur l'autre rive de la Corse.
Alors, je sais que vous êtes un fou de généalogie, vous avez d'ailleurs publié un Larousse de la généalogie. Qu'est-ce que l'historien peut nous dire sur vraiment ses origines ? Est-ce qu'elles sont prioritairement génoises, corses, françaises ?
Ah, quand j'avais fait mon histoire de Corse il y a plus de 20 ans, j'avais intitulé le chapitre 1 « Le peuple corse melting pot » parce que effectivement, la Corse étant une île, elle reçoit sans arrêt des apports nouveaux de populations qui étaient autrefois des Génois militaires, des artistes milanais, vénitiens, des peintres florentins, des travailleurs de la terre qui étaient des Lucquois. Et c'est le sort de toute île.
C'est magnifique, mais je n'ai pas ma réponse à ma question. Parce que concernant votre propre arbre généalogique, est-ce qu'on est d'abord Génois, d'abord Français, d'abord Corse ?
Ah, on est Corse pendant des siècles et des siècles. Moi, j'ai fait ma généalogie depuis 1387. Wow. Et on voit qu'il y a un grand mélange. Bon, à 90%, ce sont des Corses. Et puis, il y a effectivement des sculpteurs génois au XVIIe, XVIIIe siècle.
Mais votre ancêtre préféré, je dirais, dans cette généalogie ?
Mon ancêtre préféré, c'était Rameau Terami, qui a vécu 91 ans, qui était né en 1731, qui est mort en 1822, et qui était l'un des grands corsaires de la flotte de Pascal Paoli.
Alors visiblement, une passion corse vous a été transmise très tôt, Michel Verger-Franceschi, depuis le plus jeune âge. D'autant que les héros de la Corse moderne se sont levés. Et par exemple, la voix d'un Edmond Simeoni, considéré, je crois, comme l'un des pères du nationalisme corse, a bien porté, notamment en 1975, lors du congrès de l'ARC, l'Action régionaliste corse, c'est-à-dire 4 jours avant les événements d'Aléria.
Nous avons besoin, j'ai besoin de vous poser quelques questions claires, appelons de votre part des réponses claires, sans équivoque, ne permettant aucune dérobade. Votre silence ou vos réponses mitigées seraient interprétées par nous tous et par les militants qui se battent depuis une décennie comme une dérobade, comme un désaveu, préfigurant la mort prochaine d'un peuple qui représente tout pour nous. Nous attendons, avec anxiété et espoir à la fois, vos réponses. Y a-t-il un peuple corse? Ce peuple corse a-t-il droit à la vie? La Corse est-elle une colonie? La Corse doit-elle être décolonisée?
Extrait en sol majeur d'un discours resté célèbre hein, dans la mémoire corse, Michel Verger-Franceschi. Alors moi, je prends au vol cette question de Edmond Simeoni. La Corse est-elle une colonie?
Alors, une colonie, non, bien entendu. Ça n'a jamais été le statut de la Corse, à la différence de la Martinique ou de la Guadeloupe. Un peuple, oui. Et Edmond Simeoni, qu'on vient d'entendre, ne fait que répéter ce que disait déjà Voltaire, qui parle de peuple corse. Alors, le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas aujourd'hui cette notion de peuple corse, alors que la monarchie la reconnaissait. Le roi de France parlait toujours à ses peuples, la Provence, la Bretagne, la Corse. Et ce n'est qu'à partir de Napoléon que l'on dit le peuple français, dans un héritage jacobin. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est refusé par une grande partie de la population corse, qui reste dans la tradition paoline de ce que l'on appelait le girondinisme. Donc Pascal Paoli était pour une fédération de régions et adhérait donc à la France, mais pas à la France jacobine, que l'on a connue surtout après Napoléon et puis avec Jules Ferry. Lorsqu'on écrivait dans les écoles, il est interdit de parler le corse et de cracher par terre, par exemple. C'est une phrase qui est toujours reprochée aujourd'hui, évidemment, à la Troisième République.
Alors, en quoi la voix, pour vous personnellement, la voix d'un Edmond Simeoni rattaché à ces événements d'Aléria, il faut réviser sa petite histoire corse là, en quoi est-ce que sa voix a été fondatrice pour vous?
Ah, ben Edmond Simeoni est effectivement le père du nationalisme corse, puisque quand j'allais en vacances enfant en Corse dans les années 50 ou dans les années 60, c'était véritablement le Moyen-Âge. On avait des routes qui étaient d'une étroitesse extraordinaire, il fallait faire marche arrière si on rencontrait par hasard quelqu'un d'autre. Pour aller du Cap Corse à Rogliano jusqu'à Bastia, on mettait plus de 2 heures, donc c'était vraiment le Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'eau courante, pas de douche, pas de baignoire dans les maisons, etc. Et Edmond Simeoni, en 1975, a montré que la Corse avait fait beaucoup de choses. 13 000 morts en 14-18, c'est une des régions françaises où il y a eu le plus de morts. 13 000 jeunes hommes qui sont partis au front, qui ont été tués pour que l'on récupère l'Alsace et la Lorraine en 1918. Et 1939-45, le général de Gaulle a dit à propos de la Corse, le premier morceau de la France libérée. Donc la Corse a fait énormément de choses. On oublie l'appui des Corses pour qu'Henri IV monte sur le trône, etc. Et donc Edmond Simeoni a voulu montrer que la Corse avait aussi des droits et que ça n'était peut-être pas très sympathique pour qu'elle soit laissée à l'abandon. Il faut voir ce qu'étaient les librairies dans les années 70. Il n'y avait rien sur l'histoire de Corse. Et on était un peu les parents pauvres, donc. Et cette pauvreté a été augmentée par la perte de l'Algérie en 1963. Et Edmond Simeoni a été le premier à dire qu'on n'aidait pas suffisamment les jeunes exploitants corses à exploiter les terres de leur père ou de leur grand-père, et que l'on aidait peut-être trop les gens que l'on appelait les pieds noirs et qui avaient effectivement tout à fait le droit de s'installer où ils voulaient, mais qui préféraient le sud, d'où les mandarines à feuilles qui sont apparues. Moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de mandarines à feuilles, il y avait des mandarines, point. Et donc Edmond Simeoni a lancé un cri qu'il continue à pousser à l'âge de 84 ans aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire, Michel Verger-Franceschi, qu'il y a donc un lien presque évident entre vos origines et le fait que vous soyez devenu historien ?
Ah oui, 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 je suis devenu historien parce que j'ai trouvé dans la vieille maison de famille de Roliane, notamment tous les papiers du corsaire, là, le fameux Teramo Terami, que j'ai toujours chez moi aujourd'hui à Paris. Et je donnerai toute cette collection d'archives qui remonte à 1620 aux archives départementales de Bastia quand je serai un petit peu plus vieux. Mais j'ai énormément d'archives, de registres. Et donc c'est vrai que lorsqu'on a 15 ou 16 ans, bon, on va à la plage, on se baigne, on drague les filles et tout dans la journée. Mais on a aussi envie de comprendre le passé de l'île et de découvrir des textes qui sont tous en italien ou en latin. Et ça a fait naître la passion de l'histoire.
Y a-t-il un chapitre d'histoire qui vous touche particulièrement ?
Alors je suis un très grand admirateur de Louis XIV parce que c'est un homme qui a introduit la notion de méritocratie sous l'Ancien Régime. Et on a une idée fausse de Louis XIV qui, pourtant, nommait des officiers généraux comme Jean Bart, qui était fils d'un pêcheur de Dunkerque. J'ai fait une biographie d'Abraham Duquesne, dont le grand-père était cordonnier et qui est devenu le chef de la marine française. Et Louis XIV, 72 ans de règne, ce qui nous fait à peu près une quinzaine de quinquennats, ça fait rêver aujourd'hui nos hommes politiques.
Vous trouvez ? Ça fait pas de vous un royaliste, tout ça, quand même ?
Ah non, 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 je suis profondément laïque et républicain.
On va corser un petit peu les choses et revenir à nos mouflons, si vous me permettez. Vous, l'auteur d'une histoire de l'identité corse, vous en serez d'accord, c'est l'histoire avec un grand H qui fait, enfin entre autres, hein, qui fait l'identité corse. Et donc, vous, sur votre petit rocher d'historien, bah, vous avez au moins trois statues de trois hommes qui ont contribué à écrire cette histoire. Le premier de ces hommes s'appelle San Piero Corso, 1498-1567, condottière perçu comme alors le légendaire roi des Corses. C'est comme ça qu'on l'appelait de son vivant à Alger. Qu'est-ce que lui doit la Corse ?
Oui, San Piero est la figure vraiment mythique du XVIe siècle. C'est déjà un Corse de la diaspora, c'est-à-dire qu'il est parti au service des Médicis à Florence, pour commencer. Il assiste donc au mariage de Catherine de Médicis à Marseille en 1533. Et Catherine devenant reine de France, eh bien, il entre au service du beau-père de Catherine, c'est-à-dire François Ier, puis du mari de Catherine, Henri II. Et il est le colonel général des troupes corses au service du roi. Et il veut donner la Corse à la France pour la sortir des griffes de Gênes. Ça, c'est la première grande figure, et il a beaucoup fait justement pour faire naître ce sentiment, alors national, ce sentiment de peuple corse, mais on ne peut pas le comparer à un Pascal Paoli, parce que ce serait totalement anachronique.
Le deuxième homme s'appelle donc Pascal Paoli. Il est revenu de nombreuses fois dans votre bouche, Michel Verger-Franceschi, 1725-1807. D'ailleurs, vous lui avez consacré de nombreux ouvrages. Il est présenté à la fois comme un philosophe et comme un général corse, mais en fait, c'est quand même beaucoup plus un philosophe, inspiré par notamment par la maçonnerie pro-écossaise des Stuarts. Et son nom est associé à deux grands épisodes de l'histoire corse, la guerre d'indépendance de la Corse, 1729-1743, et la République corse.
Tout à fait.
1755-1769.
Tout à fait. Et Pascal Paoli, c'est plus un philosophe qu'un général. C'est vraiment un penseur. Alors il est regardé comme le père de la Constitution de 1755, qui a influencé la constitution de 1776 de Jefferson. Donc c'est quand même un personnage colossal, non pas uniquement au niveau corse, bien entendu. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 villes des États-Unis qui s'appellent des Paoli City aujourd'hui, en Pennsylvanie, au Massachusetts, au Connecticut, etc. Et donc, autant il veut se rendre indépendant de Gênes, autant dans les années 1790, il dit ces phrases extraordinaires, j'aime l'union avec la France, avec la libre nation française exactement, parce que dorénavant nous sommes à égalité avec tous les autres citoyens, et c'est le cas aujourd'hui où les universités parisiennes, la faculté de médecine de Marseille, sont peuplées de jeunes gens qui me sont particulièrement chers et qui sont les étudiants en Corse et qui arrivent à Paris, à Marseille, où la plupart des médecins donc, sont corses, à la Timone, etc. C'est tout à l'honneur d'une part des Corses et à la pensée de ce que voulait Paoli, qui voulait justement que la jeunesse réussisse.
Et c'est là que le bicorne en feutre noir de Napoléon entre en scène. Il est né, donc, on le rappelle, à Ajaccio en 1769, au moment où l'île cesse d'être génoise pour devenir française. Et vous dites, dans votre Napoléon, une enfance corse, qu'on ne peut pas vraiment comprendre le trajet exceptionnel de celui qui va devenir le premier empereur des Français si on oublie de souligner son ancrage dans l'éducation, dans les traditions corses.
Tout à fait. Napoléon est vraiment un Corse qui arrive au pouvoir. On s'en aperçoit d'ailleurs dans le Code civil. La disparition, par exemple, des testaments par substitution. Autrefois, sous l'Ancien Régime, on pouvait léguer sa succession à son fils. Et puis on disait, dans 300 ans, si mon fils n'a pas de descendants qui portent le nom, eh bien ce seront les descendants de ma fille qui hériteront. Et donc c'est supprimé parce que ça avait affecté la famille de Napoléon pour cette fameuse propriété d'Émile Ely, qui était la maison de campagne des Bonaparte.
Mais son esprit conquérant, on le doit à cette naissance corse, vous
oui,
diriez.
Oui, parce que les Corses ont toujours été partout. Donc Edmond Simeone, là aussi, a créé cette notion de diaspora. Et vous avez aujourd'hui plus d'un million de Corses, alors qu'il n'y en a que 330 000 dans l'île. Et donc les Corses sont toujours partis. Au XVIe siècle, ils étaient gouverneurs de Chypre, ils étaient gouverneurs de Zante, on les trouvait à Venise. Un petit village comme Zicavo au XVIIIe siècle donne 85 officiers généraux à Venise. C'est extraordinaire. Quand vous allez à Zicavo aujourd'hui, qui est un village perdu et magnifique au milieu de la nature, on n'imagine pas tous ces galons, toutes ces décorations, tous ces diplômes qui étaient donnés par le doge de Venise au vieux Zicavé d'il y a 200 ans.
Il faut vous lire, Michel Verger Franceschi. Les petits mouflons, en tout cas de la musique polyphonique corse, sont déjà là, ils sont prêts, car je crois savoir que vous écoutez assez religieusement Imouvrini ou les frères Bernardini.
Oui.
Les polyphonies, ça c'est quelque chose aussi qui nourrit votre réflexion sur l'île ?
Oui, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Quand vous assistez à un concert de polyphonie dans la nuit en Corse, ça élève vraiment l'âme.
Ça sent l'homme face à lui-même. Imouvrini sur RFI, ça s'écoute pieds nus aussi en sol majeur, sous le sourire de Michel Verger Franceschi, historien qui remonte sur son petit rocher dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
qu'est-ce qui est corse et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est authentiquement corse et qu'est-ce qui relève de la carte postale? J'apprends en lisant une histoire de l'identité corse des origines à nos jours de notre invité l'historien Michel Verger-Franceschi que l'île de Beauté a donc produit Napoléon, d'accord, mais également un certain Dominique Piazza. C'était qui celui-là?
Et c'est le fondateur de la carte postale.
Donc c'est un Corse.
C'est un Corse.
Voilà. On regardera tout à l'heure une ou deux affichettes pour comprendre d'ailleurs la représentation fantasmée de l'île. Mais je crois qu'on va d'abord retourner dans la chambrette, Michel, de vos origines.
Sotto il ponte ci luce la luna e stellin cielo ni manca mancuna. Dormi in li castagni si lagna il vento, uno strulume sarà presto spento. Dormi.
L.
L. Comme langue d'amour.
Une langue d'amour servie par un certain Tino Rossi.
C'était ma berceuse quand j'étais enfant et ma mère effectivement m'a bercé avec des chants corses. Elle ne parlait pas vraiment le corse mais elle le comprenait très très bien. Et son père, donc mon grand-père que j'ai connu très longtemps, parlait le corse donc jusqu'à sa mort à 90 ans. Mais à l'époque, on ne parlait pas le corse aux enfants. Donc les grands-parents parlaient corse entre eux, ils se tournaient vers leur propre mère, puisque j'ai connu mes deux arrière-grand-mères. Mon grand-père n'avait que 15 ans de différence avec sa propre mère, selon l'époque. On les sortait du couvent et on mariait mon arrière-grand-mère à 14 ans avec un lointain cousin. Donc à 17 ans, elle avait eu tous ses enfants. Et donc on ne parlait pas aux enfants en Corse. C'est comme ça que la langue corse a petit disparu et qu'aujourd'hui, elle connaît un renouveau grâce à l'université de Corté pour qu'il y ait des professeurs de langue corse et on apprend ça aux enfants. C'est un peu comme les éléphants, hein. On les protège, les espèces, les baleines, etc. Et donc il est nécessaire de protéger aujourd'hui la diversité de la planète.
Mais pour quelle raison à l'époque on ne parlait pas corse aux enfants ?
Pour qu'ils soient francisés, qu'ils aient le plus de chances possible d'avoir leurs examens, leur baccalauréat, etc.
Alors aujourd'hui, le statut de la langue, elle fait partie quand même du cœur du problème corse. Donc, être corse dans votre cas, à vous, Michel.
Ah, c'est compliqué.
Sans la langue.
Sans la langue, c'est compliqué. Et donc, on voit que le prix Goncourt corse a écrit son très beau livre en langue française.
Rappelez-nous.
Oui, l'académicien français aussi, Angelo Rinaldi, à l'heure actuelle, écrit uniquement en français et pas du tout en corse. Donc, on a un peu l'impression d'être orphelin d'une partie de notre propre culture. Et donc, c'est un bien de vouloir la rénover. Vouloir la rendre obligatoire, ça c'est peut-être différent. Parce que si une langue est obligatoire, mon problème, moi, en tant qu'enseignant, c'est de voir qu'un bachelier pourrait rendre à ce moment-là une copie en langue corse. Et est-ce qu'il y aurait suffisamment de correcteurs ? Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
Qui n'a pas lu dans son adolescence le fameux poème de Rudyard Kipling que vous allez reconnaître, j'en suis sûre tout de suite. Alors là, ce qui est important dans ce poème, en fait, c'est la langue dans laquelle il est traduit.
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie,
et sans un chaparul à mettre et à construire,
et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties,
senza gesto, senza un suspiro,
sans un geste et sans un soupir.
Se tu puoi essere amante senza un pazzi d'amore,
si tu peux être amant sans être fou d'amour,
tu seras un homme, mon fils. Ça se passe en sol majeur avec Grand Corps Malade à l'instant et Imouvrini pour la version corse de ce poème de Rudyard Kipling. Alors Michel Verger Franceschi, qu'est-ce qui se joue là pour vous quand vous entendez ce poème comme ça?
Ah, c'est un poème que je trouve tellement magnifique depuis l'enfance, parce que mon père me l'avait fait apprendre, que je l'ai fait lire au cimetière de Bastia le jour de sa mort, le jour de ses obsèques, à Loupine. Et c'était le dernier hommage que je voulais rendre à mon père.
Vous l'avez fait lire en français ou en corse?
En français. Parce que mon père n'était pas né en Corse, mon père était de Perpignan. Et donc avec ma mère, ça a formé un très bon couple, assez explosif, entre un Cap-Corsin et un Catalan. J'ai donc grandi dans ces deux cultures.
Mais donc avec une coupure linguistique quand même.
Oui.
Et là, qu'est-ce qui se joue dans cette traduction corse que vous avez demandé à entendre,
hein? Oui, parce que je la trouve très très belle en Corse et je trouve cette langue merveilleuse, cette langue est magnifique.
Vous la comprenez quand même?
Oui, pas tout, mais je la comprends.
Est-ce que, même sans cette langue corse, vous pourriez dire, comme l'actuel président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, « Je suis profondément corse avant d'être français ».
Non, ça je ne pourrais pas aller jusque-là, parce que moi je me qualifie vraiment de citoyen du monde. Et par conséquent, j'appartiens, par ma généalogie, à un ensemble d'ancêtres qui viennent de partout. Et c'est pour ça que je fais de la généalogie, parce que c'est une grande leçon d'humilité. Alors on dit toujours que lorsqu'on fait de la généalogie, on trouve toujours parmi ses ancêtres un roi et une putain, mais...
Et c'est votre cas?
Non, le roi n'existe pas. Je reste prudent pour la suite. Mais c'est vrai que la généalogie est vraiment une leçon d'humilité. J'ai d'ailleurs monté des clubs de généalogie partout où je suis passé, et on voit un mélange absolument extraordinaire. Et alors quand on dit que l'on est très basque ou très breton ou très normand, etc., eh bien on s'aperçoit que lorsqu'on arrive à Louis XV, en fait on a tous des ancêtres qui viennent d'ailleurs. La première Franceschi que je connaisse en 1454 comme ancêtre s'appelait Salomé, et donc c'est pas un prénom particulièrement chrétien, et donc nous sommes véritablement un melting pot, et je me sens donc citoyen du monde.
Donc c'est joli, la généalogie c'est l'école de l'ouverture pour vous et pas oui. Du repli identitaire. On va tremper nos doigts de pied, si vous le voulez bien, dans cette culture méditerranéenne avec un fou chantant et flottant, un certain Charles Trenet. Est-ce que sa chanson « La mer » correspond un peu à votre perception de la Corse, à vous ?
Ah oui, et c'est ce que l'on oublie souvent de dire. Moi, je suis très choqué quand on me dit ben, « La Corse, pourquoi y a-t-il un particularisme ? C'est comme les autres régions ». Et non, c'est pas comme les autres régions. On fait Rennes-Paris en voiture ou en TGV. Et moi, je voudrais qu'un étudiant de Corté puisse venir à Paris avec un tarif SNCF et ne pas payer 250 euros d'avion chaque fois qu'il veut consulter des archives. Faut pas oublier que nous avons retrouvé qui étaient les parents, grands-parents et arrière-grands-parents de Saint-Pierre aux Corses à la Bibliothèque nationale à Paris et aux Archives nationales à Paris et non pas à Bastia ou à Ajaccio. Donc tout étudiant, au moins de master, devrait avoir l'équivalent de 10 voyages à Paris au tarif SNCF.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent.
La mer,
les reflets changeants, la pluie.
B, comme
la mer,
berceau de l'humanité.
On fait trempette dans l'un des berceaux de l'humanité, on peut dire ça comme ça, à savoir la mer Méditerranée, avec une question qui me chatouille les doigts de pied, autour de cette identité corse. Vous nous expliquez bien, Michel Verger Franceschi, qu'il y a une différence, grande comme l'océan, si j'ose dire, entre l'identité perçue et l'identité vécue. C'est ce que vous analysez très bien à travers toute une iconographie, une littérature, une peinture produite autour de l'île. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur une affiche publicitaire de David Delepiane de 1904. 1904 étant une date traumatique hein, pour les Corses.
Oui, tout à fait. Pour aller en Corse, on ne peut y aller évidemment qu'en bateau. Et par conséquent, il y a eu de très nombreux naufrages de la compagnie Valeri ou de la compagnie Fraissinet dans les années 1850, 1904, 1905. Et donc, la mer est un danger. Et on va donc représenter à travers toute une série d'affiches la mer comme une île avec des figuiers de barbarie, avec des ânes, avec le saint plancher des vaches, avec des femmes qui filent et qui tricotent sur leurs ânes. Et donc, on va aggraver le côté rustique et archaïque. Alors, toutes ces affiches appartiennent à la collection d'un grand ami qui est François Hollandine, qui est un véritable mécène en Corse. Et donc, on voit l'évolution sur un siècle où on voyait une Corse qui était archaïque et pastorale. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles affiches, on voit une Corse qui est un bassin de patrimoine, de culture, de peinture. Et les affiches publicitaires ont énormément changé la vision de l'île.
Mais si on s'arrête sur cette affiche, là, juste pour l'image, on y voit une femme corse montée sur un âne et elle est en train de faire du tricot sur son âne. Qu'est-ce que ça veut dire des valeurs sûres de la Corse ?
La valeur sûre, c'est le travail. C'est la raison pour laquelle Napoléon a pris l'abeille, parce que l'abeille est travailleuse, comme symbole de l'Empire. Et donc, les Corses, on les regarde comme des paresseux. Depuis Strabon, dans l'Antiquité, on dit « ils ne voulaient pas travailler, les esclaves corses à Rome ne voulaient pas travailler, etc. parce qu'ils étaient paresseux. » Non, c'est parce qu'ils étaient fiers. Ils refusent la servitude, ils refusent l'esclavage. Et donc, ces femmes qui tricotent, elles symbolisent cette valeur sûre qui est le travail, la réussite personnelle. Et la Corse, en 43, s'est libérée elle-même par son propre courage, le courage des hommes, leurs armes aussi. Bon, c'était une population effectivement armée qui a dû se défendre pendant des siècles contre tous les envahisseurs, contre les barbaresques, contre les corsaires, contre les corsaires monégasques, languedociens, provençaux et surtout évidemment algériens ou marocains. Et ce sont des valeurs propres à l'île, toujours d'actualité aujourd'hui.
Et vous diriez donc que l'identité de l'île, c'est d'abord la terre ou d'abord la mer ?
C'est les deux qui sont très étroitement imbriqués. La Corse, c'est une montagne dans la mer. Et donc, la mer sépare. Napoléon a dit, après la Révolution en 1805, aujourd'hui, il n'y a plus de mer qui nous sépare. Et malheureusement, si, la mer sépare, et c'est le principal handicap. On le voit quand on fait des courses. On achète n'importe quel produit, on le paye plus cher parce qu'il y a le transport. Bon, et donc, c'est une culture à la fois pastorale, c'est vrai, le pelon, qui est le manteau très très épais, quasi imperméable des bergers, les mouflons que vous avez cités plusieurs fois, mais que l'on ne voit jamais, c'est curieux, dans les blasons de la noblesse corse.
Pourquoi ?
Sur 1000 blasons, le mouflon n'apparaît que très tardivement en 1900 et une fois sur 1000. Et par contre, tout ce qui est la force, c'est-à-dire le lion, la guerre, les épées, les boulets de canon, etc., la justice, la balance, c'est ce qui apparaît le plus sur les écus et les blasons de la noblesse.
Le Corse n'aime pas la notion de profit, par contre.
Non, parce que c'est la ville marchandise. Et la ville marchandise, c'est le Génois. Et donc, San Piero disait, les Génois, ils sont toujours mercadants. Mercadants, c'est toujours en train de marchander. Et le Corse, c'est l'honneur, c'est le combat. Mmh. C'est pour ça qu'on les retrouve, comme les Écossais, dans les deux régions du monde où on parle de clans. Ce sont les Highlanders, ce sont des mercenaires, ce sont des condottières. Et donc, San Piero et Napoléon sont les deux symboles, justement, de cette force militaire des Corses.
Cela dit, Michel Verger-Franceschi, vous racontez bien que la littérature romantique notamment a véhiculé une image négative et noire de la race corse.
Ah, tout à fait. Les royalistes, et en particulier à l'époque de Chateaubriand, on n'aimait pas beaucoup les Corses et on écrivait au sujet de la race corse qu'elle était jugée infernale. Et on écrivait, il est bien démontré que l'infernale race qui a causé nos irréparables désastres, c'est-à-dire les guerres de l'Empire, et ceux de l'Europe entière, n'est qu'un amas horrible de tous les vices destructeurs de l'ordre et du bonheur social. Ces vices sont inhérents et indigènes à la nation où ils ont puisé cet infâme sang, déjà corrompu dans les veines de leurs aïeux et déjà abhorré du temps des Romains, qui, comme l'a dit un de leurs historiens, il s'agit de Strabon, avait d'eux une idée d'horreur et d'abjection telle qu'ils n'en voulaient même pas pour leurs esclaves. C'est ce que pensaient les royalistes qui étaient furieux contre l'ogre corse qui avait arraché le trône à Louis XVI, le roi martyr. Et assez curieusement, en 1814 et 1815, après Waterloo, le conseil municipal, eh bien, s'est un peu trop aplati, à mon sens, devant Louis XVIII, en disant « Est-ce que vous allez nous pardonner d'avoir donné naissance à l'usurpateur du trône de votre illustre frère Louis XVI, etc. » Et c'est amusant, là aussi, de voir qu'en 200 ans, Ajaccio, qui est une ville merveilleuse, est devenue aujourd'hui la cité impériale et que toutes les rues s'appellent rue Napoléon, rue du roi d'Europe, et que le souvenir de Napoléon a fini légitimement, je dois le dire, par triompher après ses errements de 1814 et 1815.
Lille s'est réappropriée la figure de Napoléon assez tardivement.
Assez tardivement, et ça on le doit à Jean-Guy Talamone, qui est un grand admirateur de Napoléon. Quand vous entrez dans le bureau de Jean-Guy Talamone, vous avez des souvenirs donc, du Premier Empire. Et en Corse, on a eu tort d'opposer pendant longtemps Paoli, qui aurait été le nationaliste qui a donné très brièvement la Corse aux Anglais en 1794-96, à Napoléon, qui a voulu que la Corse soit française. Et ce n'est que depuis peu que l'aéroport d'Ajaccio s'appelle aéroport Napoléon Bonaparte, ce qui a une signification, alors qu'il y a 10 ans, ça s'appelait Campo dell'Oro, c'est-à-dire le champ du blé, alors que Napoléon est le deuxième ou le troisième personnage connu au monde.
On parle souvent d'âme slave ou de sang latin. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de l'âme corse ?
Ah, l'âme corse est spécifique à un territoire. C'est un territoire qui a dû se suffire à lui-même avec beaucoup de difficultés parce que c'est une montagne. Le peuple corse a donc mangé des châtaignes, de la farine de châtaigne pendant très longtemps. Pascal Paoli disait c'est la manne du peuple. Et c'est vrai que les ancêtres qui allaient de Roliane à Corté, eh bien, ils y allaient à pied pour les plus modestes. Ceux qui étaient plus aisés partaient en cheval. Et ils avaient des châtaignes grillées dans la poche ou des châtaignes bouillies qu'ils mangeaient comme ça, le fusil sur l'épaule, et il faisait donc un trajet qui durait 3 ou 4 jours si c'était à pied, et donc la Corse vivait assez pauvrement. Quand on voit en 1790 le nombre de citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui avaient le droit de vote et ceux qui avaient le droit d'être élus, eh bien, ça n'était pas une région particulièrement aisée.
Donc l'âme corse, c'est une âme montagnarde, fière, ça va ensemble, avec un sentiment, vous diriez, un profond sentiment anti-italien.
En 1938, il y a eu ce serment qu'avait prêté mon grand-père avec celui qui était l'auteur du serment, qui était le professeur Charles Mattei, qui était évidemment à la Timone, qui était un des plus grands pneumologues de son temps, qui était « Nous jurons sur nos tombeaux et sur nos berceaux de mourir français » parce qu'il fallait faire face à l'irrédentisme italien. Ma grand-mère distribuait des tracts en latin à Montpellier, à la sortie de l'église, contre le Duce et contre le fascisme, contre Mussolini, parce qu'évidemment, l'Italie revendiquait la Corse comme une terre de culture italienne. Alors, ça n'est pas faux que du point de vue de la langue, du point de vue de la décoration, des campaniles, de la peinture, etc., l'influence toscane ou l'influence génoise, évidemment, sont deux influences que l'on retrouve aujourd'hui dans l'art, dans la culture et dans la littérature corse.
Alors, les mauvaises langues, parce qu'il y en a toujours, et les frileux ont remarqué que ces dernières années, une baisse des attentats est à souligner quand même sur cette île, ce qui s'explique peut-être par le fait que les indépendantistes et nationalistes gouvernent ensemble. Mais vous écrivez « Quand je regarde le drapeau corse, figé sur une feuille de papier glacé, je suis triste et mon sang est aussi glacé que cette feuille ».
Et oui, parce que je suis un historien maritimiste, vous l'avez dit. Et donc un drapeau, c'est vrai que ça n'est pas fait pour être encadré dans un salon. Un drapeau, c'est fait pour flotter sur les mâts des vaisseaux. Et donc, on a un projet avec la mairie de Bastia et avec quelques amis de faire un petit peu ce que l'on a fait pour l'Hermione à Rochefort, c'est-à-dire de refaire la fameuse galiote de Pascal Paoli qui avait été offerte par l'Ordre de Malte. Et donc, c'est vrai que j'aimerais beaucoup que ce drapeau flotte d'ici une dizaine d'années au mât de cette galéote ou de ce chébec Paoli. soliste.
Mais pas de sensibilité indépendantiste pour autant.
Non, parce que je suis quelqu'un qui suis très lié à la République. Je suis fonctionnaire de la République depuis plus de 40 ans et je suis très attaché au sentiment de liberté, égalité, fraternité. Et je suis très heureux de voir qu'un étudiant de Corté, d'Ajaccio ou de Bastia a aujourd'hui les mêmes chances que n'importe quel autre Français.
Est-ce que cette manière que vous avez de reconstituer la vérité corse, c'est votre façon à vous de prendre les armes, Michel Berger-Franceschi?
Par la plume, qui est beaucoup moins dangereuse et qui fait aussi triompher beaucoup d'idées. J'ai toujours pensé que la plume était plus forte que l'épée.
Est-ce comme sous les ponts de Paris?
Oui, parce qu'on est dans la ville de cœur de notre Corse préférée, Michel Berger-Franceschi.
Alors moi, j'adore Paris, j'y habite depuis très très longtemps. J'habite à l'angle du quai de la Corse et j'ai cette chance inouïe d'avoir pu acheter un appartement rue d'Arcole, qui elle aussi est bien nommée dans le souvenir napoléonien. Cette rue qui doit son nom au ministre de l'Intérieur de Louis-Philippe, qui était un dénommé Gasparini, qui était de Morcigle, le petit village à côté de Roliane.
Vous habitez dans l'histoire.
Et j'habite tout à fait dans l'histoire et on vient d'entendre les sons qui sont mes sons quotidiens, c'est-à-dire les cloches de Notre-Dame qui jouxtent pratiquement mon immeuble. On vient d'entendre les sabots de la garde républicaine et parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup plus de chevaux finalement qui passent en dessous de chez moi, en dessous de mon bureau que de voitures. Et alors là aussi c'est amusant de penser que où Pascal Paoli a été le plus acclamé sur ce qui sont aujourd'hui les Champs-Élysées. C'est là que Robespierre, que Lafayette, que Mirabeau l'ont accueilli. C'est là qu'il a fait un trajet qui est un petit peu celui du général de Gaulle au moment de la libération. Napoléon qui souhaite être enterré près de ce peuple français qu'il a tant aimé et donc qui est inhumé aux Invalides et on a récupéré par chance, et ma mère disait c'est la seule chose qu'il ait fait de bien, ça a été la restitution de l'aiglon qu'Hitler nous a rendu pour qu'il repose à côté de son père. Et par conséquent, c'est vrai que Paris est intimement lié à l'histoire de la Corse.
Et vous-même? Vous êtes intimement lié à toute cette histoire. C'est très chic, en tout cas, d'habiter dans le 4e arrondissement de Paris. Vous en conviendrez. Rue d'Arcole, vous imaginez, pas loin du quai de Corse. Est-ce que c'est vrai que vous habitez un appartement musée?
Oui, les journalistes qui viennent à la maison le disent et ça me fait assez plaisir. Il y a beaucoup de portraits d'ancêtres. Il y a des armes, évidemment, comme chez tous les Corses. Il y a des armes qui symbolisent aussi cette diaspora, puisque l'oncle de ma grand-mère avait accouché par hasard en tant que médecin de marine l'épouse de Norodom Ier, le roi du Cambodge. Et donc, j'ai toujours les lances offertes à ce docteur dévoti de Bastia dans mon bureau.
Est-ce que c'est vrai que vous avez une maison en Corse?
Alors, nous avions une maison en Corse, mais comme dans toute famille corse, y compris dans l'enquête corse, il y a eu des difficultés de partage à la mort de mon grand-père. C'est une maison indivise et donc elle a été vendue à des Bretons, puis ensuite...
Pas à des Corses?
Et non, et ensuite à des Florentins.
Et alors, le gardien du temple, là, et vous laissez donc, votre maison, la maison des ancêtres...
Et oui, c'est
partir ça a été dans les mains des étrangers.
Ah oui. Ça a été un crève-cœur quand j'avais une vingtaine d'années. La belle maison du 17e est partie. Mais je suis souvent en Corse où je suis très nomade parce que je fais beaucoup de conférences un peu partout.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire aux éditions Payot, une histoire de l'identité corse des origines à nos jours. Merci Michel Berger-Franceschi de travailler pour votre éternité. Et puisque la France est un pays ami du Corse, je crois que je retiendrai cette formule, pourquoi ne pas se quitter avec Drouot de Barbara?
C'est une chanson qui m'a toujours bouleversée parce qu'on voit donc cette femme qui voit disperser sous le feu des enchères ses propres objets et c'est ce qu'il faudrait empêcher. Et c'est peut-être ce que l'équipe au pouvoir aujourd'hui en Corse essaye de faire, que le patrimoine de la Corse ne soit pas dispersé.
Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30, avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était la figée et superbe et déchirante, les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente, ce qui pour quelques sous rachète pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que tombes enlacées ont rêvé à s'attendre. Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses murmurent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois, alors dans le silence, elle cria je prends, je rachète tout ça. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes, le marteau retomba sur sa voix suppliante. Tout se passe si vite à la salle des ventes, tout se passa si vite qu'on ne l'entendit pas. Près des paniers d'osier dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années tentes et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé.
En sol majeur avec Facebook, Twitter, notre application Pure Radio pour nous retrouver en podcast. Et puis bien sûr chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 15h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec Cécile Ladjali. À la semaine prochaine. Ah ouais.